France Culture.
Vous reprendrez bien un peu de midi. Alors c'est reparti à 13h comme promis, on discutera avec Christophe Warlikowski. Mais tout de suite, c'est le Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Techno, house, rave, les musiques électroniques se sont imposées sur les dance floors de Berlin à Shanghai, en passant par les États-Unis. Et elles sont aujourd'hui des incontournables de la culture contemporaine. Pourtant, elles restent souvent méprisées, réduites à leur versant commercial et privées de l'imaginaire, de l'esthétique et des revendications politiques qu'elles véhiculent. Une pensée critique des musiques électroniques, c'est le dossier du Point Culture du jour. Vincent Chanson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie, éditeur et critique musicale. Vous venez de diriger un ouvrage collectif chez Amsterdam, Techno & Co, chronique de la culture dance électronique, dans lequel vous tentez de cartographier la culture dance. Pour commencer, peut-être, est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement ce que l'on appelle la culture dance et depuis quand existe-t-elle ?
Oui, alors pour cela, on pourrait remonter aux années 70, je dirais, avec la ville de New York, le disco et l'invention du clubbing moderne. David Mancuso et le Loft comme figure fondatrice, et aussi parallèlement, je dirais, l'Allemagne et Kraftwerk, et au même moment, l'invention, ce qu'on pourrait qualifier de pop électronique. Ensuite, c'est vraiment les années 80, avec trois villes, Chicago et la house, Détroit et la techno, et New York et le garage, qui vont permettre de formaliser cette culture dance électronique et ce genre, pour ensuite exploser auprès d'un plus grand public en Europe, avec l'Angleterre et les raves, le fameux Summer of Love de la fin des années 80, mais aussi l'Europe du Nord, la Belgique, les Pays-Bas, et évidemment l'Allemagne en réunifié, avec la ville de Berlin comme capitale de la techno minimale. Bon. Aujourd'hui, la scène dance électronique, à mon avis, elle se déploie selon une multitude de courants et de sous-courants. Et je pense que son centre de gravité n'est plus réellement l'Europe ou les États-Unis, mais plutôt le sud global. L'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud, l'Asie ou l'Amérique latine sont aujourd'hui des lieux majeurs de déploiement de cette culture dance.
Alors, on l'entend là, quand vous la définissez, on voit bien que c'est un mouvement avec de nombreuses ramifications qui existent depuis des décennies. Et pourtant, j'ai eu l'impression, en lisant l'ouvrage, que ça reste un impensé. Est-ce que vous diriez ça ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était précisément cette perspective-là qu'on voulait aborder avec les autoristes du livre, justement de tordre le cou un peu à certains clichés, que la techno serait une musique sans âme, purement abrutissante, purement soumise aux impératifs du fonctionnalisme dance floor. Or, en fait, on se rend compte que depuis son origine, elle est porteuse de phénomènes sociaux, politiques. C'est une puissance d'évocation fictionnelle ou imaginaire, par exemple. Donc, c'était un peu tous ces aspects-là qu'on voulait aborder.
Mais c'est vrai, quand on pense au dance floor, il y a toujours ce paradoxe, c'est-à-dire on voit à la fois un lieu marchandisé, récupéré par les grandes industries musicales, mais en même temps, on imagine aussi des lieux de revendication politique. Est-ce que les deux cohabitent toujours aujourd'hui ?
Alors, tout à fait. Là, c'est vraiment le double axe qu'on a voulu investir. C'est d'un côté, évidemment, le dance floor, la dance comme captée par les industries culturelles, par l'industrie de la nuit. Il y a un texte dans le recueil du livre porté par le collectif Techno-Matérialisme qui se nomme Techno-Gentrification, qui explicite justement, qui investit cette question de la manière dont la culture dance participe à la spatialisation du capital. Mais dans le même temps, depuis ses origines, cette culture a toujours été aussi porteuse de puissance de revendication communautaire. C'est une musique qui, à l'origine, a été portée par les communautés queer, racisées, nord-américaines notamment, et qui avait une manière comme ça de se constituer comme collectif, comme subjectivité collective, via une musique et une culture ou une subculture. Donc c'est vraiment ces deux aspects-là, une dimension évidemment de musique marchandisée, il s'agit pas de nier, si on pense à une île comme Ibiza ou une ville comme Las Vegas, mais aussi la dimension utopique et émancipatrice qu'ont toujours porté ces musiques.
Alors, vous insistez aussi dans l'ouvrage sur l'idée que le dance floor est un fait collectif, c'est votre terme. En quoi est-ce important pour vous ?
Bah, justement, précisément, par rapport à ce que je viens d'expliquer à l'instant. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, notamment quand on se met à écrire sur le dance floor, que finalement, toutes ces cultures relèvent, malgré leur explosion, une multitude de courants et de sous-courants, malgré ces multiples ramifications, il y a une forme de continuum que je qualifie de représentationnel ou d'imaginaire, et en gros que je qualifie aussi d'idéologique au sens d'une production matérielle des idées, c'est-à-dire que il y a une myriade de récits collectifs, de formes de subjectivation sociale, politique et collective aussi qui se tissent ou que portent ces musiques. Et il me semble que la portée collective du dance floor réside, mais c'est aussi le dance floor comme expérience On pourrait prendre l'exemple aussi, je sais pas, par exemple de la scène Free Party, dont les activistes revendiquent cette idée de participer à la création d'une, de ce qu'ils nomment une zone d'autonomie temporaire. C'est-à-dire que là, la fête, elle serait constitutive d'un temps et d'un espace qu'il s'agirait d'arracher au, au capital.
Les free parties qui sont d'ailleurs remises en question, hein, je crois que l'Assemblée nationale est en train de regarder une loi en ce moment, hein, pour oui. pénaliser les participants aux free parties.
Oui, les pénaliser encore plus. Il y a déjà une loi qui avait été prise en 2001, l'amendement Mariani d'ailleurs, et là en effet il y a une, un projet de loi qui est discuté qui viserait à la criminaliser, je dirais même vraiment là l'organisation de free party.
Alors vous développez aussi dans ce livre une notion, alors moi qui me semble tout à fait pertinente pour penser justement cette culture-là aujourd'hui, c'est la capacité du sonore à créer un imaginaire fictionnel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que ça signifie ?
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une référence déjà à un auteur et un livre qui est très important, je pense, pour les auteuristes du recueil, qui est Kojo Eshun, auteur du livre, d'un livre nommé « Plus brillant que le soleil », hein, qui est un livre culte, très important, sorti dans les années 90, dans lequel Kojo Eshun élabore, développe la notion d'afrofuturisme à partir de ce qu'il nomme une fiction sonore. Bon, c'est cette idée que les musiques de dance, les musiques électroniques, malgré leur dimension purement instrumentale, malgré leur dimension rythmique fonctionnelle, sont aussi vectrices d'un imaginaire, sont des puissances d'évocation, sont des puissances représentationnelles. On pourrait citer un exemple canonique, c'est le duo de Detroit Drexia, hein, qui déploie sa musique depuis la mythologie de l'Atlantique noire, c'est-à-dire depuis la mémoire de l'esclavage, qui évidemment pour les afro-descendants américains est centrale, et qui du coup déploie tout un imaginaire spéculatif de science-fiction, hein, en réinvestissant un espace mythologique que serait l'Atlantique noir. Bon, ça c'est un exemple de cette capacité fictionnelle portée par les musiques électroniques. Un autre, ça pourrait être, qui est aussi une autre grande référence pour nous dans ce recueil, c'est toute une génération d'auteurs, d'ailleurs très proches du Kojo Eshun, comme Mark Fisher ou comme Steve Goodman, ou Simon Reynolds, qui ont eux aussi écrit sur les musiques électroniques en investissant justement cette dimension d'évocation, cette dimension représentationnelle dont seraient porteuses les musiques électroniques de dance. Et moi, je pourrais parler de mon expérience d'auditeur de ces musiques. Simplement, moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises, précisément en écoutant, je sais pas, un disque d'Howe Tecker ou autre artiste de ce genre, et imaginer une esthétique ou un décor de science-fiction. Donc voilà, c'était vraiment pour montrer qu'on était loin du cliché de la musique sans âme, qu'on pouvait avoir, voilà, avoir des musiques porteuses d'une dimension fictionnelle très forte.
Peut-être un dernier mot pour finir cet entretien, Vincent Chanson. Est-ce que une recherche universitaire comme celle que vous avez menée dans ce recueil avec tous les auteurs et les autrices autour de vous, c'est aussi une façon de réhabiliter dans l'opinion publique ces musiques-là qui sont parfois quand même très maltraitées, voire méprisées?
Oui, tout à fait. C'est une manière déjà c'est un livre, je pense, de passionner, tout simplement. Et c'est une manière, en effet, de rendre hommage à ce qui nous semble être une culture majeure aujourd'hui, un courant musical majeur, vecteur, à mon avis, d'innovation formelle tout à fait décisive et passionnante, et aussi justement de tordre le cou à tous ces clichés toujours malheureusement présents, de montrer qu'il y a de la pensée dans ces musiques, il y a de la politique depuis ces musiques, etc.
Merci beaucoup, Vincent Chanson.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, le prix Birgit Nilsson a été décerné au Festival d'Aix-en-Provence.
Oui, le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence est récompensé par la Fondation suédoise pour, je cite, « honorer sa réussite artistique exceptionnelle et sa volonté d'élaborer et de commander de nouvelles productions d'opéra ». Le Festival aixois devient ainsi la première institution culturelle à obtenir cette distinction que reçoivent habituellement des artistes de musique classique et va donc à ce titre recevoir la somme de 1 million de dollars. La présidente du prix a par ailleurs rendu hommage à Pierre Audi, président du festival, décédé subitement il y a peu. C'est Bernard Foucroux, l'ancien directeur, qui accompagnera la 77e édition qui démarre le 4 juillet prochain.
Et pour terminer, Marie, l'édition victime d'une vague d'arrestations en Russie.
L'Association internationale des éditeurs alerte sur l'arrestation récente de plus d'une dizaine de professionnels du livre. Parmi eux, 3 ont été inculpés pour participation aux activités d'une organisation extrémiste. Cette vague de répression vise l'un des livres accusés de faire de la propagande LGBT. La présidente de l'Association internationale des éditeurs a déclaré que l'évolution des lois LGBT en Russie constitue clairement une limitation de la liberté de publier, ajoutant que les éditeurs doivent être attentifs à l'apparition de lois similaires dans leur propre pays et y résister activement.
Merci Marie, et on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.